Vous écoutez, on lit pour vous.
Une valeur ajoutée pour les malvoyants. Un texte de Marie-France Letourneau, paru le 28 février 2025 dans la presse. L'entreprise Humanware s'intéresse depuis longtemps au potentiel offert par l'intelligence artificielle, IA, pour le développement de ses produits destinés aux personnes malvoyantes et aveugles. Avec l'aide de l'IA, elle peut désormais guider mieux que jamais les utilisateurs de son système de navigation portatif. Et d'autres projets sont en cours. L'entreprise de 90 employés, dont 10 % ont un handicap visuel, n'a pas la prétention de réinventer la roue, affirme le responsable des technologies émergentes, François Boutrouille. Mais l'utilisation de l'IA représente une valeur ajoutée pour certains produits de la PME de Drummondville, spécialisée dans le développement de solutions permettant aux malvoyants et aux aveugles de conserver leur autonomie. On prend un modèle existant, dit-il, capable de faire certaines choses, et on l'adapte avec certaines fonctionnalités de l'IA. C'est ce qui a été réalisé avec le système de navigation portatif Stellar Trek. Sur le marché depuis 2003, le petit appareil aux allures de téléphone cellulaire permet aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle de se déplacer avec des consignes vocales et la technologie GPS. Quand la personne arrivait à destination, elle était un peu livrée à elle-même pour les 10-15 derniers mètres, souligne M. Boutrouille. Selon lui, l'IA a permis de corriger cette lacune. Les deux caméras à l'arrière du Stellar Trek nouvelle génération, vendues au coût de 1 750 $, peuvent scanner l'environnement, les adresses, les entrées, les points de repère, et fournir une estimation de la distance et de l'angle dans lequel marcher pour atteindre la destination finale. Collecte de données. Humanware a ensuite poussé l'exercice plus loin en aidant les utilisateurs du Stellar Trek à composer avec certaines opérations plus complexes lors de leur déplacement. On a commencé à détecter les passages piétonniers. On travaille encore là-dessus, mais on détecte maintenant les feux de signalisation et le changement entre le vert et le rouge et le nombre de secondes qui s'écoulent, dit M. Boutrouille. Cela demeure malgré tout complexe car les clients de l'entreprise sont répartis partout dans le monde, explique-t-il. La configuration des rues, des panneaux et des poteaux est différente d'un pays à l'autre, dit M. Boutrouille. On est obligé d'aller acquérir des données un peu partout. Les différents produits de Humanware, fondés au Québec mais propriété du groupe franco-italien Essilor Luxottica depuis 2013, trouvent preneur dans plus de 45 pays. Ses clients sont autant des particuliers que des organismes gouvernementaux ou sociaux. L'entreprise investit 10 % de son chiffre d'affaires en recherche et en développement. Autre projet. Humanware, dont le centre d'innovation est situé à Longueuil, planche par ailleurs sur un autre projet, cette fois-ci avec MILA, Institut québécois d'intelligence artificielle, de même qu'avec l'Université McGill. L'objectif? Élargir les possibilités d'utilisation de sa nouvelle tablette Monarch, qui permet un affichage tactile dynamique et braille multiligne. Cette dernière, qui favorise l'apprentissage des élèves en situation de handicap visuel, peut afficher autant des images et des graphiques tactiles que de l'écriture braille. Avec MILA, Institut québécois d'intelligence artificielle et l'Université McGill, nous travaillons à intégrer des applications innovantes qui permettront aux élèves d'accéder à du contenu grand public de manière tactile en 2D grâce à des outils d'IA, souligne la chef de communication et des partenariats marketing Myriam Champagne. Certaines personnes peuvent avoir des craintes légitimes face à ce qui se produit au niveau mondial avec l'intelligence artificielle, avance François Boutrouille. Mais si on ne saute pas dans le train pour essayer d'orienter les choses, on n'aura pas notre mot à dire. On essaie de tirer notre épingle du jeu. C'était Une valeur ajoutée pour les malvoyants, un texte de Marie-France Letourneau, paru le 28 février 2025 dans La Presse.
Billy Ray Belcourt et la brutalité de l'histoire. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 23 février 2025 dans le magazine Fugue. Avec Cœur infime, Cœur C-H-O-E-U-R, traduit par Mishka Levin, Billy Ray Belcourt ne publie pas seulement son premier roman, après des années consacrées à la poésie. L'auteur autochtone queer pousse son narrateur à quitter la vie universitaire, à retourner dans le nord de l'Alberta et à interviewer des personnes ayant subi la brutalité de l'histoire pour écrire l'autobiographie du monde rural qu'il a vu grandir. Pourquoi as-tu senti l'appel de la poésie en premier? Mon introduction à l'écriture créative, comme mode d'expression et façon d'améliorer ma conscience politique, s'est faite à travers la poésie. Je suivais des artistes de spoken word sur les réseaux sociaux et j'ai vu des enregistrements de leurs performances où elles pouvaient exprimer de grands sentiments sur l'histoire, ce qui a résonné très fort avec moi. J'ai vu la poésie comme un moyen d'aborder les nombreux éléments qui constituent le fait d'être autochtone et queer en Alberta. Je pense aussi que la poésie m'attirait parce qu'elle me permettait d'insister sur mon droit d'être libre, sans être défini à outrance par les logiques de l'oppression. Comment était-ce de grandir dans le nord de l'Alberta en tant que personne queer autochtone? À l'époque, le nord de l'Alberta était très conservateur. Mon rapport à la queerness existait à travers l'homophobie ou l'absence de personnes queer. J'ai construit ma propre queerness à travers la littérature et les médias. Je me cachais dans le sous-sol pour regarder des émissions LGBTQ+, quand il n'y avait personne à la maison, et j'achetais des romans queer avec mon argent de poche. Quand je suis allé à Edmonton pour étudier, en espérant y déployer ma queerness, je n'étais pas préparé à composer avec le racisme et le colonialisme dans les espaces queer. Ton narrateur veut fracasser le passé de toutes ses forces pour laisser passer une lumière dont il ne soupçonnait pas l'existence. Dirais-tu que son instinct le pousse à explorer le passé? Exactement. Il prend la décision de retourner dans le nord de l'Alberta pour interviewer des personnes qui ont expérimenté, chacune à leur façon, la brutalité de l'histoire. Il agit ainsi parce qu'il réalise qu'on ne peut pas se détacher du passé. En y retournant, au lieu de fuir, il espère comprendre quelque chose plutôt que de se faire écraser. Ça reflète ma propre histoire en tant que personne qui a grandi à une époque horrible pour être autochtone et queer. Il sent le besoin de quitter le monde académique pour éviter que son écriture fasse seulement évoluer le savoir institutionnel. Partages-tu son avis? Oui. Ça explique ma propre décision de me détourner de l'écriture académique et de la vie universitaire. À l'origine, je pensais faire ma place au département d'études culturelles ou en études anglaises, mais à un certain point, j'ai voulu que mon travail circule à l'extérieur de ce milieu. Si j'utilisais seulement le langage académique, j'allais m'aliéner les publics qui me tiennent à cœur. J'ai encore une perspective académique dans mon travail, mais la dimension émotive est aussi importante que la théorie. Un roman permet de marier tous ces éléments dans le même espace. Pourquoi était-ce nécessaire d'écrire l'autobiographie de l'Alberta rurale à travers ces rencontres? D'une part, il y a très peu de livres sur la vie dans le nord de l'Alberta en général et aucun que je pouvais trouver sur la vie des Autochtones queer. Aussi, si j'avais quelque chose à écrire dans un roman, ça devait porter sur le contexte de ma jeunesse. Cela dit, je ne voulais pas interviewer les membres de ma famille et les placer dans une posture inconfortable. J'ai donc voulu créer des personnages qui pourraient parler de ce que ça signifie de vivre là-bas. Un homosexuel dans le placard, une femme qui confronte l'hétéropatriarcat, un homme cri qui subit la brutalité policière, etc. Il parle d'expériences que je n'ai pas nécessairement. Ton personnage devient l'écrivain de la famille, l'historien et le coroner. Dirais-tu qu'il sent une responsabilité d'infuser de la beauté et de donner du sens aux vies passées? Il réalise que les gens ne discutent pas nécessairement de leur passé en termes esthétiques et politiques. Ironiquement, ceux qui expérimentent les formes les plus intenses de l'oppression n'ont pas souvent accès au langage pour conceptualiser leurs expériences. Le roman est vraiment une tentative de leur donner les mots pour parler de leur vie de cette façon. Évidemment, le livre a un objectif politique, mais aussi esthétique, comme tu le mentionnes. Je voulais parler de leur vie non seulement en mettant l'accent sur leur souffrance, mais aussi sur la beauté de leur capacité à survivre. Tu écris qu'on ne devrait pas créer avec l'état du monde et que la rue devrait être notre page blanche. Ressens-tu toujours cette déchirure en écrivant? Il y a des moments dans l'histoire où l'art peut sembler futile. J'écrivais ce livre durant le procès de Gerald Stanley pour le meurtre de Colton Bushy, un homme criminel en Saskatchewan. Ce procès a mis en lumière plusieurs logiques horribles de la colonisation. Je savais que la loi ne pouvait pas nécessairement permettre d'obtenir la justice, mais je me suis quand même senti accablé par le verdict d'acquittement. Je me disais que mon écriture ne servait à rien dans ce contexte et je voulais que mon personnage partage cette ambivalence. Mais ultimement, le personnage écrit ce livre comme un moyen de défense. Info. Cœur intime. Cœur, C-H-O-E-U-R, de Billy Ray Belcourt. Traduction de Mishka Levigne, édition Triptyque Queer. C'était Billy Ray Belcourt et la brutalité de l'histoire, une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 23 février 2025 dans le magazine Fugue.
Dix faits éclairants au sujet de l'astrologie. Un texte commandité, paru le 8 mars 2025 dans La Presse. Science ou superstition? Si les secrets de la voûte céleste ont longtemps guidé les décideurs à travers les âges, l'astrologie a perdu de son lustre avec l'avènement des Lumières. Depuis les années 1960, elle connaît pourtant un regain d'intérêt, particulièrement auprès des jeunes. Que vous croyez ou non à l'influence des astres sur votre destinée, certains faits sur l'astrologie sont indéniables. En voici 10. 1. L'astrologie remonte aussi loin qu'à la Mésopotamie antique. Vers le 3e millénaire avant Jésus-Christ, les Sumériens et les Babyloniens se fiaient au mouvement des astres pour prédire les événements terrestres. Cette pratique millénaire a été transmise aux civilisations grecques et romaines avant que les érudits arabes, à leur tour, en enrichissent les travaux. 2. C'est avec l'essor de la science moderne que l'astrologie a perdu son autorité intellectuelle. En Occident, la physique newtonienne et le rationalisme des Lumières ont contribué à sa marginalisation, la reléguant à une forme de superstition ou d'obscurantisme. 3. Dans certains pays, comme l'Inde, l'astrologie a conservé sa position parmi les sciences. Elle y est considérée comme une branche connexe à l'astronomie, les deux disciplines découlant d'un même savoir. Des universités indiennes offrent d'ailleurs le doctorat en astrologie. 4. Des astrologues célèbres ont marqué le cours de l'histoire, que ce soit à la cour du roi ou au sein du régime nazi. Nombreux sont les monarques et dirigeants qui consultaient la position des astres pour guider leurs décisions politiques et militaires. L'astrologue le plus influent est certainement le français Nostradamus, 1503-1566, dont les prophéties continuent d'être décryptées aujourd'hui. 5. Et quelle différence y a-t-il entre le zodiaque et l'astrologie chinoise? Les 12 signes zodiacaux traditionnels correspondent, grosso modo, au mois de l'année et sont associés aux constellations. L'astrologie chinoise, en revanche, est basée sur un cycle lunaire de 12 ans dans lequel chaque année est associée à un animal et à l'un des 5 éléments suivants: bois, feu, terre, métal et eau. 6. Votre horoscope vous semble souvent juste? L'effet Barnum, un biais cognitif bien documenté en psychologie, explique notre tendance naturelle à nous identifier personnellement à des descriptions générales et vagues. C'est le psychologue américain Bertram Forer qui a théorisé le phénomène en 1948 en soumettant ses étudiants à un faux test de personnalité. Une vaste majorité d'entre eux se sont fortement reconnus dans les résultats, alors que tous les participants avaient reçu une description identique tirée d'un recueil d'horoscopes. 7. La synastrie consiste à étudier les thèmes astraux de deux individus pour prédire leur compatibilité ou l'absence de cette dernière. Selon cette méthode, la position des planètes et des signes dans les cartes astrologiques de chacun pourrait nous en dire long sur les dynamiques à l'œuvre dans une relation, en amour, en amitié ou en affaires. 8. Selon l'Agence spatiale américaine, NASA, en établissant les 12 signes du zodiaque, les Babyloniens ont ignoré l'existence d'une 13e constellation, Ophiuchus. Si certains passionnés ont craint que cette révélation bouleverse l'astrologie traditionnelle, d'autres ont vu là une distinction relevant purement de l'astronomie. 9. Si l'arrivée de Mercure rétrograde ne vous dit rien qui vaille, rassurez-vous. En vérité, aucune planète ne subit de période de rétrogradation, c'est-à-dire que la trajectoire de sa révolution autour du Soleil ne change pas. Le phénomène observé de la Terre est bien réel, mais il est simplement dû à une illusion d'optique. Dans le cas de Mercure, il se produit 3 ou 4 fois par année. 10. Vous vous trouvez à cheval entre deux signes? Les personnes nées à ces dates frontières présenteraient des traits appartenant aux deux signes astrologiques qu'elles chevauchent, ce qui leur conférerait une personnalité complexe et unique. Il existe même un terme pour désigner la chose, être cuspide. C'était 10 faits éclairants au sujet de l'astrologie. Un texte commandité paru le 8 mars 2025 dans La Presse.
Après 64 ans à consigner la météo à la chute, une famille s'apprête à tirer sa révérence. Un texte d'Alexis Riopel paru le 8 mars 2025 dans Le Devoir. Chaque jour depuis 64 ans, la famille de Richard Trépanier mesure le temps qu'il fait à la chute. Cette œuvre de patience fut commencée par Antoinette, la mère de Richard, à qui le gouvernement du Québec confiait quelques instruments météorologiques au début des années 1960. Leur station, l'une des 89 dans la province encore gardée par un observateur, connaîtra probablement sa dernière saison cet hiver 2025 avant de céder sa place à un poste automatique. La météo, c'est comme le sang qui me coule dans les veines, affirme M. Trépanier, âgé de 73 ans. Dans son garage, il pianote sur un terminal installé au mur. Petit vent d'ouest de 6 km/h, dit-il en entrant les données prélevées ce matin-là. Un cylindre de cuivre repose sur le plancher. Après une tempête, je fais fondre la neige dans ce cylindre pour mesurer son contenu en eau, explique l'homme à la barbe éparse et au sourire facile. Le volume obtenu sert aux prévisions des crues. En tant qu'observateur en météorologie du ministère de l'Environnement du Québec, M. Trépanier mesure la température, le vent, la pluie et la neige 365 jours par année. Il s'y applique 2 fois par jour, à 8 heures et à 18 heures. Cet engagement, rien de moins qu'une passion dévorante en ce qui le concerne, lui vaut un salaire de 1 900 $ par année. Ces relevés s'ajoutent à la base de données du réseau de surveillance du climat du Québec qui compte 266 stations, dont les 2/3 sont automatiques. En 1961, quand Richard Trépanier n'avait même pas 10 ans, des techniciens du gouvernement du Québec cognèrent à la porte de la maison familiale. Les religieuses de l'école Saint-Alexandre, au bout de la rue, étaient observatrices météo depuis 1958, mais elles en avaient assez. Antoinette Trépanier accepta de reprendre le mandat et on installa la station sur la ferme familiale de 28 hectares, 3 vaches, des cochons, tout près du cœur de la chute. « J'étais fou comme un balai », se rappelle M. Trépanier. On remit au Trépanier un petit cahier noir avec des instructions. Le manuel était signé par Georges Oscar Villeneuve, l'un des premiers météorologues du Québec. Les observateurs devaient mesurer les températures minimales et maximales quotidiennes, mais aussi déterminer l'humidité relative grâce à un thermomètre mouillé par une mèche plongée dans un petit récipient d'eau. À l'époque, ils étaient poétiques, raconte M. Trépanier. On leur demandait de consigner les arcs-en-ciel. Son oncle Aldège, un paysan, contribuait à relever les variables malgré son analphabétisme. Vite, le jeune Richard s'y mit également, sans que sa mère le lui demande. Il rêvait de devenir météorologue. À son entrée au cégep de Sainte-Thérèse en 1969, l'adolescent était assez fort en sciences, mais découvrit que le manuel de physique était en anglais. Il dut faire une croix sur son ambition. Une génération plus tard, sa fille, Noémie, piquée par la même mouche, allait devenir météorologue professionnel. Un dispositif inventé par Hydro-Québec. En ce frisquet avant-midi de mars, l'homme se faufile le long d'un sentier creusé dans l'épais manteau enveloppant sa cour. Sa maison, construite à la fin des années 1980, au moment où il reprenait officiellement le flambeau d'observateur de sa mère, se dresse sur l'ancienne terre agricole familiale. Aucun meuglement ne se fait plus entendre. Des maisons neuves ont champignonné aux alentours. Atteignant le bout du chemin excavé dans la neige, M. Trépanier rejoint une boîte faite de lattes de bois. Ces lattes laissent entrer l'air, mais coupent le soleil direct. Il ouvre une porte, derrière s'y cachent des thermomètres. La station météorologique compte également un pluviomètre, un anémomètre qui mesure le vent, et un niveau-mètre qui mesure la neige. Les 13 et 16 février, l'observateur lachutois a mesuré, en raquette, 33 et 40 cm de poudreuse. La pièce la plus curieuse de sa collection est cependant le glacimètre, un dispositif inventé par Hydro-Québec dans les années 1970 pour mesurer les accumulations de verglas. Il s'agit simplement d'un cadre métallique sur lequel la glace s'agglutine. Chaque épisode de verglas, M. Trépanier sort sa règle électronique et compte les millimètres. Il envoie son rapport mensuel par la poste. Ça sert à planifier le développement des infrastructures, comme les pylônes, explique le météorologue citoyen. Cette responsabilité découle d'un second contrat, celui-là avec Hydro-Québec, qui lui vaut 700 $ par année. Les Trépaniers participent au programme d'observation glacimétrique depuis son lancement en 1974. Ce réseau compte actuellement 56 stations au Québec, indique au téléphone Gilles Périard, le climatologue qui en est responsable. L'idée, c'est d'avoir un système simple qu'on déploie partout dans la province, que M. et Mme Tout-le-Monde peuvent utiliser, explique M. Périard en soulignant le travail impeccable de Richard Trépanier. Inévitable automatisation. Pour l'instant, le programme glacimétrique d'Hydro-Québec ne serait pas sur la voie de l'automatisation, selon M. Périard. À l'inverse, au ministère de l'Environnement du Québec, on indique avoir amorcé l'automatisation de certaines stations météorologiques avec observateurs. Cela fait longtemps que les techniciens du ministère en parlent à M. Trépanier et il semblerait que l'heure ait sonné. L'homme semble à la fois soulagé et attristé. « Je veux terminer la tête haute », lance-t-il. Depuis les années 1960, sa famille n'a manqué à son devoir qu'une quinzaine de jours, et c'était parce que l'équipement du ministère, perché sur un poteau en bois, s'était écroulé. Quand Richard ou Antoinette ont dû s'absenter, des voisins ou des parents ont couvert leurs arrières. Durant le grand verglas de 1998, M. Trépanier était en vacances à Cuba, dit-il, presque gêné. Allumant la télévision dans sa chambre d'hôtel, il voit apparaître Lucien Bouchard à CNN. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Heureusement, son fils montait la garde à la chute. Dans un vieux cahier, 28 mm de glace sont consignés le 6 janvier 1998. Chose certaine, le travail d'observateur est foncièrement solitaire. C'est comme être dans le désert, dit M. Trépanier. Il se désole que jamais le ministère de l'Environnement n'ait réuni ses observateurs autour de Sandwich Potcrut pour leur permettre de se rencontrer. Des fous de la météo comme moi, il doit y en avoir d'autres, se dit-il. Son plus grand souhait serait d'échanger avec d'anciens observateurs, ses frères et sœurs de vocation. Je suis un orphelin. Et ça, c'est dur à prendre, dit-il, les yeux pleins d'eau, un trémolo dans la voix. C'était, après 64 ans à consigner la météo à la chute, une famille s'apprête à tirer sa révérence, un texte d'Alexis Riopel paru le 8 mars 2025 dans Le Devoir.